de vous retrouver après ma dernière visite qui date d'il y a un an à peu près et de voir toute l'œuvre de Dieu qui se développe dans votre communauté. Le thème de ce week-end, et je vais essayer de raccourcir évidemment pour m'adapter au timing ce que je voulais vous partager ce matin, mais je rappelle que le thème dans lequel nous étions rassemblés ce temps-là du week-end de Pâques, c'était appelé, formé et envoyé. On n'est pas si loin du message de Pâques. C'est une parole que Jésus, c'est le résumé d'une parole que Jésus a prononcée à ses disciples, à ses apôtres, quelque temps avant la Passion. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Avant la Passion, il avait déjà en vue le projet, non seulement pour ses apôtres, mais pour l'Église qui allait naître, de leur message. Et au matin de la résurrection, ou peut-être dans les temps qui ont suivi, il rappellera cette mission à travers cette parole rapportée dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans ce matin de Pâques, c'est cette mission que nous entendons à nouveau. Et c'est ce projet de Dieu à travers son Église, son peuple, que nous voulons vivre, que nous voulons peut-être même revivre. Et notre vision finalement dans notre famille d'Église, du réseau Nouvelle Connexion que vous avez rejoint, et je ne vais pas vous souhaiter la bienvenue parce que vous êtes maintenant des membres à part entière et sans aucune limite, c'est de retrouver ce dynamisme. Retrouver ce feu, retrouver cet impact de ceux dont on a dit, ils ont bouleversé le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui faisait que ces disciples tremblants, pendant la Passion, tremblants après la résurrection, jusqu'à ce que le Christ leur dise, que la paix soit avec vous, ne craignez pas. Ce peuple qui tremblait encore dans la chambre haute, avant que le Saint-Esprit ne tombe sur eux, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ensuite ils deviennent cette armée de témoins, cette église triomphante, au service de ses contemporains, de sa génération, au point de gagner toutes les nations du monde connu d'alors. Certains diront, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Quand on est charismatique, on ne peut pas s'empêcher de dire, oui, c'est le feu du Saint-Esprit. Certainement, évidemment. Mais il n'y a pas que cela. Il y avait aussi un projet de Dieu pour son peuple, il y avait une mission. Il y avait un style de vie, un style même d'organisation. Et ce peuple qui naît de la mort et de la résurrection du Christ, l'Église, permettez-moi de nous le présenter ce matin comme un peuple missionnaire, comme un peuple apostolique. Et je vais m'arrêter un peu sur la façon dont nous comprenons cette intention de Dieu de faire de nous toujours, encore et toujours, une Église, un peuple, un mouvement dans la dimension apostolique. À travers ce mot qui revêt différentes significations et qui peut-être peut vous paraître technique ou je ne sais quoi, attendez. Voyons ce que le Seigneur entend par là. Voilà ce que peut-être on pourrait retrouver aujourd'hui, pas simplement dans notre famille d'église, mais dans l'église de Jésus-Christ. Pour qu'au lieu de vivre une église qui finalement se satisfait un peu d'un quotidien centré sur elle-même, nous retrouvions par la grâce de Dieu l'élan missionnaire, l'élan de conquérant qui marque le monde et qui implante finalement le royaume de Dieu partout où elle passe. Notre famille d'église, elle n'a pas d'autre prétention que cela. C'est pour cela que nous vibrons. Un réseau apostolique qui rassemble des hommes et des femmes qui vibrent pour les mêmes choses, qui se retrouvent dans le même ADN. Je ne vais pas y revenir, je ne vais pas le détailler. Ça a été fait à d'autres moments, on le fera peut-être à d'autres dans le futur. Qui sont animés par ce désir de porter cette bonne nouvelle et de proclamer et d'incarner la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et notre prière dans ce matin de Pâques, c'est de dire « Seigneur, fais de nous ce peuple apostolique que tu as suscité depuis toujours, Réveille ton Église. Je ne parle pas d'une dénomination apostolique que nous respectons et que nous aimons. Nous parlons de la dynamique, de la puissance, de l'autorité qui réside dans le mandat apostolique donné à l'Église pour qu'elle atteigne la cible que le Seigneur lui donne et qu'elle entre dans sa mission. Je vais donner 3 ou 4 points qui, dans notre compréhension de cet apostolat qui nous est donné, devraient marquer notre pratique, notre prière, devraient constituer comme un objectif atteint. D'abord, et je vais peut-être en rassurer plusieurs, pour nous, ce qui est apostolique, ça n'est pas de l'ordre d'abord d'une structure. Ça n'est pas d'abord de l'ordre d'une liste de ministères sur laquelle on reviendra. Est apostolique d'abord tout ce qui proclame la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Le message des apôtres, c'était bien sûr Christ est mort, Christ est ressuscité. Et c'était un message qui, finalement, apportait, ça a été tellement bien dit ce matin, une nouvelle révélation de Dieu. Un Dieu de grâce. Un Dieu qui fait grâce. Un Dieu qui accueille. Un Dieu qui restaure. Un Dieu qui justifie. Pas par des œuvres, pas par des obligations, pas par une loi. La loi avait conduit à la mort et a conduit même le Fils de Dieu à la mort. Pas par une religion. Ce sont les puissances religieuses qui ont crucifié le Christ. Mais par la révélation du caractère même de Dieu. Qui s'est incarné, qui s'est approché et qui a attiré à lui tout ce qu'il destinait à la vie éternelle. Et c'est mon premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant. Nous sommes apostoliques dans la mesure où d'abord nous connaissons, nous vivons et nous incarnons cette dimension du caractère de Dieu, d'accueil inconditionnel, de compassion, d'amour, avant même que de brandir des principes, fût-il biblique, une morale ou une religion. Le message que Paul portait à la suite de Christ et qui lui a valu toutes les persécutions que vous savez, le message que le Christ a lui-même incarné et qui l'a conduit à la croix, c'est ce message de la révélation de Dieu comme un Père qui accueille. La croix n'est que l'aboutissement de toute cette haine qui a monté, 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 de plus en plus fort dans le cœur des puissances religieuses, des autorités religieuses, qui ne supportaient pas que le Fils de Dieu, celui qui se prétendait Fils de Dieu, ne hurle pas avec eux contre les pécheurs, contre les bas tombés, contre les exclus. Comment peut-il manger avec les publicains? Comment peut-il accueillir cette femme adultère? Comment se fait-il qu'il n'est pas avec nous pour défendre les droits de Dieu? On ne parlait pas du même Dieu. Et quand le Christ est là, il révèle l'amour de Dieu, sans compromettre ni sa sainteté, ni ses exigences, ni sa loi, mais en accomplissant finalement cette loi. Et nous devons retrouver, l'Église doit retrouver avant tout ce message. Je crois qu'il y a aujourd'hui une urgence dans nos vies personnelles, dans l'Église en général. C'est ce que j'appelle volontiers cette révolution de la grâce qui doit faire tomber toutes les puissances d'esprit religieux qui nous habitent, qui nous conditionnent souvent et qui enferment la bonne nouvelle de l'Évangile dans un tas de règlements et de devoirs dont le monde n'a que faire. Seigneur, fais de nous un peuple apostolique, un peuple qui incarne ta grâce, ton accueil, ton amour. Cette grâce qui libère, cette grâce qui sanctifie, cette grâce qui nous rend zélés, cette grâce qui nous motive. Parce que la passion, la révélation de Dieu nous anime et nous fait brûler d'une passion qui nous dévore. Le zèle de ta maison nous dévore. Pas parce que nous avons obéi à un Dieu qui exige de nous toujours plus, mais parce que nous connaissons un Dieu qui s'est donné et à qui nous voulons nous donner à notre tour. Je m'arrête là, parce que je sais que j'ai déjà parlé de cela la dernière fois que je suis venu. Heureusement que je note ce message partout où je passe, parce que sinon je risquerais de me répéter. Mais je n'ai pas de scrupule à me répéter ici. Notre plus grand ennemi, c'est la puissance de la religion qui est en nous, qui est au milieu de nous, y compris dans nos milieux charismatiques et évangéliques, parce que c'est là que le diable se cache. Pour que la puissance de l'évangile, on parle bien de ça, pour que l'impact de l'évangile ne dépasse pas les murs de nos églises et ne transforme pas le monde dans lequel nous sommes. Notre société a besoin d'une révélation nouvelle d'un Dieu de grâce. Il faut que notre nation soit baptisée dans la révélation de l'amour et de la compassion de Dieu. Pourquoi ceux qui nous entourent ont donc des chrétiens qu'une image de gens qui condamnent, de gens qui revendiquent, qui défendent les droits d'une religion, de principe ou d'un Dieu, sans être attirés par ce Père qui nous attend, par ce Père qui veut nous transformer et ce Père qui veut nous délivrer. Être apostolique, c'est ça. La vie, le message, avant la structure. Est apostolique aussi pour nous dans notre compréhension de cette mission, de cet appel. Allez, faites de toute façon des disciples. Tout ce qui met en œuvre, et là j'y viens maintenant quand même, tout ce qui met en œuvre l'ensemble des ministères donnés à l'Église. Le peuple de Dieu qui va naître, ce n'est pas un peuple désarticulé, un peuple désorganisé. C'est un peuple avec une structure, c'est un corps, c'est vrai, mais avec une structure bien précise. Cette structure, je la rappelle, parce qu'elle est bien connue, mais si mal connue en même temps. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants en vue de la maturité du corps de Christ, afin que l'Église accomplisse son ministère. Ça, c'est une dimension apostolique dans notre compréhension. Pas simplement apostolique pour quelques ministères, mais apostolique pour qui fait du peuple de Dieu un peuple apostolique. Parce qu'il y a une structure qui le rassemble, qui l'unit, qui le coordonne et qui lui permet d'entrer dans sa mission et dans une pleine santé, une pleine maturité. Alors, comment ça se passait dans le livre des Actes? On n'est pas ailleurs que dans le livre des Actes. Eh bien, ces apôtres à qui il s'est adressé, qui ont entendu la parole, les versets que je viens de lire, ont commencé à travailler ensemble. Ils allaient ensemble, de ville en ville. Ils se complétaient dans leur onction. Ils se coordonnaient dans leurs actions. Et c'est pas l'un ou l'autre d'entre eux qui a suffi pour accomplir la mission qui était confiée au peuple de Dieu. C'est ensemble. Quand Pierre et Jean allaient au temple, quand Paul et Barnabas et plus tard Silas travaillaient ensemble avec toutes les équipes qui le suivaient, quand Pierre et Jacques, quand l'ensemble de ces apôtres étaient ensemble, et je vais me répéter consciemment, ensemble, pour que, à travers les onctions qu'ils avaient reçues, une puissance, une autorité se dégage pour libérer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui, bien sûr, ça fait 30 ans que le Saint-Esprit a rappelé cette nécessité que tous les ministères soient remis à l'honneur. On assiste à la restauration des ministères apostoliques, prophétiques, etc. Simplement, on n'a pas compris une chose, et je n'ai pas compris, toujours compris cette chose-là, moi aussi. C'est qu'en fait, ces ministères-là ne sont pas donnés pour que chacun s'exerce successivement, consécutivement. Ils sont donnés pour travailler ensemble. Ils sont donnés pour former des équipes. Ils sont donnés pour coordonner des réseaux d'église. Et pour que cette synergie qui se dégage de cette complémentarité, de cette communion, de cette unité, libère une puissance qu'aucun ministère isolé et indépendant ne pourra développer par lui-même. C'est ce que nous voulons vivre dans notre réseau. Nous appelons un réseau apostolique. Et quand je parle de réseau aujourd'hui, pas par opposition aux fédérations d'église, parce qu'elles ont leur place. Nous sommes aussi une fédération d'église. Mais nous avons découvert que ce n'est pas dans les fédérations que se trouve la dynamique spirituelle. Elles ont leur sens dans la perspective d'une représentation, d'une représentativité, de relations avec les institutions de notre pays. Mais ce n'est pas là que réside la puissance du peuple, de Dieu et pour l'Évangile. C'est dans ces réseaux qui se mettent en place. Mais j'appelle bien cela des réseaux apostoliques. Quand je parle de réseaux, on vient de me dire « Ah, mais nous aussi on travaille en réseau, tu sais, je travaille avec un tel, dans toutes les nations, sur tous les quatre coins de la planète. » Ce n'est pas ça un réseau. Ça, c'est un réseau au sens courant. Oui, c'est des connexions ici et là. Mais un réseau apostolique, c'est un réseau qui est coordonné. Et notre vision, notre fonctionnement, vous le savez maintenant, c'est d'être ensemble dans des réseaux d'églises qui sont accompagnés par ce qu'on appelle les équipes apostoliques. Les équipes apostoliques, ce ne sont pas des gens qui viennent et se prétendent apôtres. Non, ce sont des gens qui ont reçu ensemble un mandat, qui ont reçu ensemble cet appel pour servir sur un territoire, sur une famille d'églises, et qui apprennent à servir ensemble. Parlons concrètement. Quand Jean Brunet vient ici, il ne vient pas en son propre nom. Il vient au nom de l'équipe apostolique à laquelle il appartient, en tant qu'un des vis-à-vis avec moi de cette église. Quand je suis ici, je ne viens pas en tant que Jean-Marc Potenti pour exercer mon ministère, je viens en tant que représentant de ce réseau et de l'équipe. Parce que c'est ensemble que nous vous servons. C'est ensemble que nous cherchons à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ainsi, cette synergie que nous avons besoin de développer, d'améliorer bien plus encore. Et vous savez, il y avait des temps dans lesquels nous visitions ensemble les églises, les différents ministères d'une équipe apostolique, s'exercer ensemble dans un même lieu pendant plusieurs jours. Et la bénédiction qui a résulté dépasse largement celle qu'on peut recevoir quand on visite comme cela seul. Et je le dis sans aucune réserve. Il faut retrouver cela. On en parlait avec les responsables des pasteurs, des églises de notre réseau il y a quelques jours. Il faut que nos églises nous forcent à bouleverser nos agendas pour que on passe d'une... Enfin, je reviens. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas des ministères indépendants qui visitent des églises successivement. On est une équipe de ministères qui sert ensemble le corps de Christ. Alors on le fait bien sûr quand on se retrouve en équipe et qu'on a un regard commun sur les églises. Là je vais faire mon compte rendu de ce que j'ai vécu avec vous, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai perçu. Et on va prier ensemble en équipe, mais un peu loin. Bon, mais n'empêche qu'il y a ce regard, cette synergie. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on puisse comprendre que il y a une bénédiction surnaturelle dans cette communion. Il faut qu'on retrouve cela. Ça peut paraître un peu obscur pour certains, un peu technique, mais croyez-moi, c'est d'une puissance inouïe. Ce qui va faire passer l'Église d'une Église qui, eh bien, se développe sans problème, en bonne santé, à une Église qui impacte, une Église qui transforme le monde dans lequel elle se trouve, c'est quand cette onction, ces onctions données ensemble au corps vont être libérées et vont former le corps pour entrer dans sa pleine dimension. Alors, on ne parle pas de complémentarité, de diversité des ministères. On parle de synergie. On parle de ce tissage des onctions qui apporte une explosion de vie et une explosion du royaume de Dieu. Travaillons à cela. Questionnons-nous. Réfléchissons à cela ensemble. Et puis, progressons dans ce sens-là. Et puis, dans notre compréhension de l'apostolat, dans le but qui est assigné à ces ministères, c'est une chose particulière aussi. Il a donné les uns comme, vous l'avez lu avec moi, je l'ai cité, et on dit, voilà, pour que l'Église exerce, pour former les saints, pour qu'ils exercent leur ministère. Et tout le monde comprend qu'en fait, le but des ministères, c'est de former des croyants pour qu'ils servent l'Église. Et pour que leur ministère s'exerce dans l'Église. Et c'est là encore qu'on enferme l'Évangile et le royaume de Dieu dans une dimension privée de la communauté chrétienne, et on le prive, cette communauté, et la puissance qu'elle contient, qu'elle porte, elle la prive de toucher l'environnement dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, il faut changer cela. Ce n'est pas nouveau, mais on va mettre l'accent là-dessus. Le but des ministères, apôtres, prophètes et la liste, je n'y reviens pas, c'est de former chaque croyant, former le corps de Christ pour que chacun entre dans son ministère, non pas dans l'Église seulement, mais dans la société. C'est pourquoi nous avons rassemblé dans notre réseau pas que des églises, mais des œuvres. Des œuvres de tous ordres, des écoles chrétiennes, des épiceries sociales et solidaires, des entreprises, et je ne sais, la liste est infinie. Nous ne voulons pas séparer les églises, communautés paroissiales, indispensables pour la communauté pastorale, de leur dimension d'impact et d'environnement social. Donc nous croyons qu'à travers les églises, des œuvres naissent. Et je salue le CPDH que j'affectionne particulièrement, mais tellement d'autres, dans des champs d'action divers, qui sont des ministères spécialisés de l'Église, même s'ils ne sont pas rattachés à une Église, ce n'est pas la question, mais qu'ils sont le peuple de Dieu en mouvement. L'Église, ce n'est pas la communauté locale seulement. C'est chacun d'entre nous là où nous nous trouvons, dans nos actions, dans la façon dont nous incarnons notre engagement, dans nos vies professionnelles, dans nos engagements associatifs, politiques, économiques. Ça, c'est l'Église. C'est aussi l'Église. Et ce n'est pas parce que la loi française nous oblige à faire une distinction entre le culturel et le culturel que nous, pour autant, nous devons enfermer la dynamique du royaume de Dieu dans l'association cultuelle. Donc des œuvres doivent se développer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tellement de croyants reçoivent des visions particulières pour une sphère de la société que l'Église ne pourra pas atteindre. Ça peut être les médias, ça peut être le domaine social, ça peut être le domaine médical, il y en a tellement. On ne va pas faire la liste, on réduirait le champ des possibilités. Mais il faut que les appels spécifiques que nous portons ensemble, appelés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit Christ. C'est-à-dire qu'il y a un appel sur nos vies, il y a un projet de vie, il y a un équipement, il y a une onction, il y a des compétences, qui sont des compétences artistiques, intellectuelles, je ne sais de quel ordre, mais qui sont toutes issues du même esprit. Je crois que l'onction de l'esprit, elle n'est pas simplement pour le surnaturel, elle est aussi pour toutes les compétences qui vont amener une bénédiction à ceux qui nous entourent. Je crois que les charismes, ça n'est pas les choses qui sont inattendues et miraculeuses seulement, c'est aussi le fait de servir, d'aimer, d'enseigner, de faire du commerce, avec une onction particulière en vue de bénir. C'est tout ce qui peut bénir ce qui nous entoure. C'est communiquer la vie qui est en nous. Et donc le corps de Christ est en mouvement. Il faut que le corps de Christ se mette en mouvement pour qu'il devienne ce peuple apostolique qui, là où il est, porte une autorité, mais aussi un amour, une grâce et un rayonnement de la présence de Dieu. On ne vient pas à l'église pour se faire du bien, rencontrer les frères et sœurs et passer un bon moment ensemble, seulement, même si ça, ce n'est pas négligeable. On y vient aussi pour apprendre à vivre dans nos vies, dans nos engagements extérieurs. Ça veut dire quoi être un patron? Ça veut dire quoi être un employé? Ça veut dire quoi être un professionnel de tel ou tel domaine? Est-ce que ce que je retire de l'écriture va m'aider à me perfectionner dans l'appel que Dieu m'a adressé pour servir le monde dans lequel je suis? Ça ouvre l'église. La religion enferme l'église, privatise tout, spiritualise tout. Le royaume de Dieu nous amène dans une dimension de liberté où il n'y a pas de séparation. Ni entre le sacré, ni entre le profane, ni entre le professionnel, ni entre le spirituel, ni entre je ne sais quoi, entre le monde et l'Église. Mais sur séparation spirituelle, de sainteté, on est d'accord, ne craignez pas, c'est pas le propos. Mais par contre, l'esprit religieux nous enferme et met des barrières qui font que finalement tout ce que nous portons, tout ce que nous vivons, tout ce dont nous sommes riches dans l'Église, révélation de la grâce de Dieu, les principes du royaume de Dieu pour toute la société, eh bien sont contenus dans l'Église au lieu d'être porteurs de vie dans le monde qui nous entoure. Il faut que les murs tombent. Mais il faut qu'il tombe dans nos têtes d'abord. Il faut qu'il tombe dans notre mentalité. Il faut que notre esprit soit élargi. Que tout ce qui est triqué, que tout ce qui enferme, tout ce qui retient, s'ouvre. C'est ça être un peuple apostolique. C'est ça le matin de Pâques. C'est ça la lumière de Pâques. C'est ça les ténèbres qui sont éclairées, qui sont déchirées par la lumière de la résurrection. Et c'est ce que nous voulons vivre, n'est-ce pas? C'est notre appel. Vivement demain, tiens. Ah non, demain c'est lundi de Pâques, c'est pas le bon jour. Alors mardi, vivement le moment où nous allons pouvoir être envoyés dans le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre, pour chercher le bien de la ville, de l'organisation, de là où nous sommes, de l'administration, de là où nous sommes, et là rayonner. Vous me direz, oui mais c'est pas facile, c'est compliqué. Mais bien sûr que c'est compliqué, sinon ça se saurait. Et c'est pas pour autant que ça doit être un lieu dont je me défends, un lieu dont je me retire même mentalement pour dire, oh là là, non, non, non. Tu es là pour briller, appelé, équipé et envoyé. Un peuple missionnaire. Missionnaire, pas pour aller nécessairement aux extrémités du monde, quoique, tout est toujours possible, mais pour être là où je suis, agent du royaume de Dieu. Ça change la vie, ça change la compréhension de la pratique professionnelle, ça change le sens de notre implication, de notre présence dans le quartier, dans la maison, dans l'environnement où nous sommes. Porteurs de vie, porteurs du royaume de Dieu. Humblement, mais soudés ensemble les uns avec les autres. D'accord? C'est sûr, c'est trop lourd à faire individuellement. C'est trop lourd à faire chacun de son côté. Mais si on est ensemble et si on vient ici pour dire, Seigneur, quel est ton appel? Quelle est ta parole? Quelle est ta direction demain face à tel conflit professionnel? Face à tel défi professionnel? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est la vision? Si on vient, on aborde ce temps d'adoration qui ne sont pas des temps privés où on se replie sur nous-mêmes et on s'ouvre au projet de Dieu pour nos vies, pour l'Église, pour le monde. Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour demain? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton environnement professionnel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour l'organisation de ta vie? J'accélère un peu le débit, ce qui est malheureusement ma pente naturelle, mais là j'ai une bonne raison, c'est que je n'ai pas le temps d'articuler un peu plus. Voilà les cultes qui rendent gloire à Dieu. Voilà la relation avec Dieu qui libère. Un peuple de missionnaires, d'agents du royaume de Dieu. C'est ça, notre compréhension de l'apostolat. Et finalement, ce sera mon dernier point. Ah, mon temps est écoulé. Mais je finis. Est apostolique pour nous tout ce qui révèle le cœur de Dieu dans le domaine des relations et notamment dans la compréhension de l'autorité. Quand les apôtres se sont mis au service de l'Église, ce n'était pas pour affirmer leur autorité cléricale, ce n'était pas pour imposer ni une doctrine, ni des diktats aux communautés qu'ils accompagnaient, c'était pour les servir. Et en cela, ils étaient porteurs et l'incarnation de cette parole de Jésus qui dira, qui leur avait dit bien longtemps avant de les quitter, vous savez que les grandes des nations les tyrannisent et abusent de leur pouvoir. Moi, c'est une parole que j'affectionne, vous savez. Quand Jésus se dénonce comme ça, la réalité du monde dans lequel nous sommes, pas de tel ou tel pouvoir, hein, seulement, Mais la réalité du monde dans lequel nous sommes et du péché qui nous tient et qui tient non seulement les individus, mais qui tient les structures, qui tient les pouvoirs, qui tient les cultures. Les grands des nations abusent de leur pouvoir et tyrannisent. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, que le plus grand soit votre serviteur. Vous savez qu'il y a plus de combats spirituels, de dynamite pour le combat spirituel dans cette parole-là, dans tous les ministères de délivrance que vous pouvez imaginer ou penser. Je suis pour le ministère de délivrance. Je suis pour le fait que nous soyons libérés. Je dis nous, soyons libérés de toutes les puissances qui nous tiennent. Mais il y a une puissance de confrontation avec le monde des ténèbres, dans ce principe de vie, qui est constitutif du royaume de Dieu. Il y a un renversement de valeurs. Le monde des ténèbres est construit sur la rivalité, sur le pouvoir abusif, sur la tyrannie, le contrôle. Le péché, c'est ça. Vous dites, c'est quoi le péché? Vous savez, c'est très concret, le péché. Ce n'est pas un concept théologique. Le péché, c'est quand l'homme a commencé à devenir Dieu pour lui-même, et ça a commencé par la domination et l'accusation de sa femme. Et quand je dis que ça a commencé, c'est que ça n'a pas toujours fini. Ça n'a toujours pas fini, à moins que Dieu n'intervienne. Passer du service, du don de soi, à l'autoritarisme, au contrôle, à la destruction. Dans le couple, dans la famille, dans l'environnement social, dans les nations, dans les systèmes religieux, dans les systèmes politiques. Ça s'incarne dans toutes les dictatures qui défigurent l'humanité, qui asservissent le monde. C'est juste le summum du péché originel par lequel l'homme veut devenir Dieu. Il exerce sur son environnement, y compris la création, exerce un pouvoir destructeur et dominateur. Quand Jésus est venu, celui que nous appelons le chef de l'Église, le conquérant, il n'est jamais venu comme quelqu'un qui allait imposer son pouvoir. Voici ton roi, il vient à toi, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il a choisi cela. Il n'a pas choisi parce que pour un temps, il fallait un peu faire profil bas. Non, il a choisi ça parce que il n'a même pas choisi, c'est lui. Voilà notre roi. Quelle image nous avons de Dieu, de son autorité, de sa puissance. Et nous, parfois, nous voulons voir l'autorité. Est-ce que ce n'est pas un peu pour nous satisfaire notre chair qui veut aller dans la toute-puissance? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Au sein de la Trinité, il n'y a pas de hiérarchie. Au sein de la Trinité, il y a trois personnes qui s'aiment éternellement, qui s'honorent, qui se glorifient mutuellement et qui se servent mutuellement dans des attributions qui sont spécifiques à chacune, mais qui n'enlève rien à la gloire, la dignité et aux attributs d'aucune d'entre elles. Ça, c'est la Trinité. Adorant Dieu, tout ce qui en nous construit des barrières, tout ce qui en nous construit une forme de séparation doit disparaître. La grâce de Dieu, dont Paul était le messager, eh bien, s'incarner concrètement dans son message. Il sait pourquoi il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Et oui, toutes les barrières que le péché et le pouvoir avait construite entre les races, entre les cultures, entre les régions, entre les sexes, toutes les oppositions, tous les lieux de conflit, de rivalité, de souffrance. Je ne vais pas m'arrêter dans le détail là-dessus. Ont été vaincus par la grâce de Dieu qui amène chacun dans un statut de fils et de fille de Dieu à égalité. Oui, oui, mais alors où sont les chefs? Et oui, bien sûr, nous on a besoin de chefs. Oui. Christ, le chef de l'Église, l'homme, le chef de la femme. Eh bien non. Mais la Bible dit que. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu entends par chef? Le Christ a aimé l'Église, il s'est donné pour elle. Et il pourvoit à ses besoins. Ce qui fait que le Christ est le chef de l'Église, c'est qu'il se donne et qu'il pourvoit. Ah oui, mais quand même. Oui, ça nous gêne. Hein, on n'est pas bien avec ça. Mais c'est ça l'autorité dans le royaume de Dieu. C'est l'amour qui se donne. Et si on s'arrête là déjà, pour le décliner dans chacun de nos cercles de relations, on va dire oui, alors non, l'homme n'est pas le chef de la femme, oui, mais pas au sens où on l'entend, parce que chef veut dire pour nous petit chef, qu'on le veuille ou non. On est pétri de ça. On est pétri de ça dans tous les domaines. Mais les apôtres ne sont pas là pour exercer un mandat d'autorité en disant hey, hop, c'est nous maintenant. Non. En fait, le mot c'est tête. Christ est la tête de l'Église. L'homme est la tête de la femme. Et la tête dans l'Écriture, c'est le sens de source, de ceux qui pourvoient, de celui qui se donne. Et voilà le renversement des valeurs entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et nous proclamons la bonne nouvelle du royaume de Dieu et nous trimballons tous les tabous, toutes les cultures du royaume des ténèbres. Et nous sommes toujours pris entre deux, écartelés entre les deux. On se dit, mais ce qui fait nous un peuple apostolique, c'est quand nous nous servons Dieu, nous servons mutuellement, quand les ministères sont au service de l'Église, concrètement, et quand chacun est dans une soumission mutuelle. Et là, nous incarnons le climat du royaume éternel, dans lequel nous serons éternellement, dans lequel nous vivrons, et dans lequel la gloire de Dieu saturera et nos vies, et toute la création. Et là, nous mettons à mort, nous mettons en échec les puissances de ténèbres. Tout ce qui est division, tout ce qui est conflit, compétition, rivalité, jalousie, ça tombe, parce que l'amour prend le dessus. C'est ça qui fait nous un peuple apostolique. Nouvelle conception de l'autorité. Tu es patron? Très bien, parlons-en. Tu es employé? Très bien, parlons-en. Tu es cadre? Allez, parlons-en. Tu es chef? Au sens de... Parlons-en. Ça veut dire quoi? Regardez tout ce que l'Écriture dit concernant la façon dont chacun doit exercer sa responsabilité, y compris en position d'autorité, mais avec un esprit de service auquel le Seigneur nous a ouvert la porte et qu'il a lui-même incarné. Je ne vais pas aller plus loin. Cette fois, je m'arrête vraiment. Mais l'apostolat pour nous, la dimension apostolique, elle est forte de ces quatre dimensions. Et il y en a bien d'autres encore. Ah oui, l'apôtre, c'est celui qui implante des églises. Ça, c'est le fruit. C'est la conséquence. On a des climats, on a des schémas, on a des stéréotypes qui nous empoisonnent la vie et qui font de nous, qui font de notre vie et de notre message, finalement, qu'ils font perdre toute sa force. L'apostolat, c'est plus que ça. C'est la mission que Dieu nous a confiée, mais c'est l'esprit, la culture dans laquelle il veut nous faire vivre. Et à partir de là se dégage alors la puissance de l'esprit de Dieu. Je ne crois pas à un réveil, je ne crois pas à une tombée du ciel sur nos têtes, sans transformation de nos valeurs et de nos cultures, notre compréhension, de notre façon de vivre, qui permette à cette puissance de vie de continuer à se répandre tout au long du temps. On en a assez des réveils qui rassemblent des foules. Alors pas en France, d'accord? On n'en a pas assez en France. Oui, non, en France, on n'en a pas assez, dans tous les sens du terme. Mais dans tellement de pays, on voit le taux des chrétiens, en tout cas des conversions, pardonnez-moi, et des participations aux croisades d'évangélisation se augmenter. Et nous, on bave devant ça. Quand la France? Mais franchement, j'ai pas envie de ça. Seulement. J'ai envie de voir l'Église d'abord se réveiller à sa responsabilité, à se laisser transformer dans sa culture, dans son fonctionnement, pour accueillir l'Esprit de Dieu. Et de là, alors, des foules viendront au salut. Ça, c'est sûr. Des villes vont être transformées, oui, mais durablement. Et pas juste parce qu'on aura levé la main à l'appel et on aura l'assurance d'aller au ciel. Ça, c'est pas le salut. Le salut, c'est vivre dans les valeurs et la puissance du royaume de Dieu au quotidien, en se laissant transformer pour que l'Esprit de Dieu puisse à la fois vivre en nous, habiter en nous et rayonner à travers nous pour toucher le monde dans lequel nous nous trouvons. Voilà le réveil que nous attendons. Voilà la restauration de ce que Dieu veut faire. Voilà le peuple apostolique que nous sommes appelés, que nous appelons de nos voeux aussi, pour lequel nous prions, dit Seigneur, en ce matin de Pâques, que les ténèbres qui nous assaillent, qui nous enferment, qui nous coincent, qui nous soient déchirés par ta présence, par ta lumière, par ta vie. C'est urgent. Ça ne se passe pas simplement dans notre réseau. C'est un phénomène mondial que de voir ces réseaux apostoliques, cette restauration se mettre en place. Je n'ai pas le temps d'en parler. Ça se passe de partout, dans tous les courants, dans toutes les familles spirituelles. Mais c'est aussi ce que nous voulons vivre en tant que famille spirituelle du réseau de Nouvelle Connexion à notre échelle et en collaboration avec tous ceux avec lesquels nous collaborons et nous travaillons. Est-ce qu'on peut accueillir le triomphe de Pâques? Pas comme un triomphe individuel, mais comme un triomphe contre la mort, contre les puissantes ténèbres et contre toutes les stratégies que l'ennemi a mises en route pour enfermer l'Église encore aujourd'hui et l'empêcher de vivre dans sa dimension. Mais le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et nous vivons avec lui. Levons-nous ensemble, si vous voulez bien. Nous vivons avec lui, nous appelons la vie, nous appelons la guérison, la transformation, tout ce qui en nous a besoin d'être visité par la vie. Seigneur, tu vois tous les lieux de mort. dans nos pensées, dans notre culture, dans notre façon de comprendre ton plan. L'évangile, tu vois, tout ce qui est marqué encore par les ténèbres, tout ce qui est marqué encore par le tombeau. Seigneur, viens nous donner la vie. Viens nous ressusciter avec toi en ce jour de Pâques. Viens nous transporter dans une dimension de révélation à la hauteur et à la largeur, la dimension de ta gloire et de ton projet. Seigneur, ton esprit est en nous. Nous sommes nous aussi réellement ressuscités en toi et nous accueillons cet esprit. Pendant quelques instants, je vous demande simplement d'accueillir l'esprit de Dieu comme un esprit de résurrection, un esprit qui amène la vie partout où ça sent, on peut le renfermer, où ça sent la mort, où ça sent finalement les ténèbres et où on a défiguré le projet de Dieu dans nos vies, où on n'a pas compris tout ce dans quoi il veut nous amener, toutes les prisons dans lesquelles nous sommes enfermés comme Barabbas. Seigneur, viens, libère-nous. Il est mort à cela pour nous. Il a pris sur lui toutes ses autorités, il a pris de front ses puissances, ses pressions, ses oppressions, ses mensonges. Et il en a triomphé pour nous faire triompher à notre tour. Alléluia. Seigneur, que ta vie coule dans chacune de nos vies, dans chacun de nos engagements, à travers chacun d'entre nous, cette communauté, dans partout où nous nous trouvons, et que ton règne vienne. Cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, prenne une plus grande dimension encore. Parce que nous comprenons l'ampleur de ton plan. Fais de nous ce peuple de missionnaires, ce peuple apostolique qui transforme et qui bouleverse le monde dans lequel tu l'envoies pour amener la vie, l'humilité, le pardon, la grâce, le salut, pour l'honneur et la gloire de ton nom. En Jésus-Christ. Amen.